VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le groupe d'études sur le Congo, le GIEC, de l'Université de New York, a recommandé aujourd'hui que la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, devrait suspendre son soutien au processus électoral en République démocratique du Congo si les conditions pour des élections crédibles en fin d'année ne sont pas réunies. Le Conseil de sécurité devrait faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MONUSCO au cours de la prochaine année, écrit le GIEC dans un rapport alors que les Nations Unies s'apprêtent à renouveler le mandat de la MONUSCO avec le vote d'une nouvelle résolution d'ici le 31 mars. En République centrafricaine, un employé de l'UNICEF et 5 autres coopérants dans le domaine de l'éducation ont été tués dimanche lors d'une attaque. Les précisions, John Needon.
L'attaque s'est produite alors que le groupe se rendait à Markunda dans une zone reculée proche de la frontière tchadienne. Les nationalités des personnes tuées n'ont pas immédiatement été révélées. En août dernier, des inconnus avaient tué 6 volontaires de la Croix-Rouge dans le sud-est du pays, un mois à peine après la mort d'un autre humanitaire tué par un groupe armé à Bangassou. Nous condamnons vivement cet acte insensé contre des coopérants humanitaires qui venaient pour améliorer la vie des populations les plus vulnérables, a déclaré hier la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Marie-Pierre Poirier.
4 casques bleus bangladais ont été tués et 4 autres grièvement blessés. Mercredi après-midi, dans le centre du Mali, la MINUSMA a précisé que les 4 casques bleus ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif lors du passage d'un véhicule de la force de la MINUSMA sur l'axe Boni-Douenza dans la région de Mopti. 4 autres soldats de la paix grièvement blessés ont été évacués. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement l'attentat dans un communiqué. On reste au Mali. Le processus de cantonnement, de désarmement et d'intégration était au centre d'un atelier à l'endroit des chefs de base des différents mouvements armés. L'objectif est de préparer un éventuel enregistrement des combattants. Reportage à Tombouctou, Abdoulaye Traoré.
La Commission nationale de mobilisation, désarmement et réinsertion poursuit ses activités à Tombouctou avec un atelier sur les documents et registres pour l'enregistrement des combattants. L'atelier est placé sous la présidence du gouverneur de région en présence du président de la Commission nationale de démobilisation, désarmement et réinsertion, Zahabi Ould Sidi Ahmed, accompagné d'une forte délégation. Le chef de bureau de DDR de Tombouctou nous explique le contexte. Firoun Meiger.
Elle rentre dans le cadre une mission que la Commission nationale des DDR a organisée du 11 au 15 dans la région de Tombouctou, où en concertation avec les différentes bases, la question de l'élaboration des listes s'était posée, les difficultés qui l'entravent et en même temps les souhaits et les possibilités de pouvoir actualiser ces listes.
Après cette étape de formation, les chefs de base procéderont au recensement des combattants. Nom, prénom, situation familiale, numéro d'armes tenu par le combattant, le site de son choix pour le cantonnement. Ce qui reste à savoir, est-ce que toutes les parties sont décidées à aller à ce cantonnement? Almou Ag Mohamed, porte-parole SEMA.
Du côté de la SEMA, tout est fin prêt pour aller à toute la mise en œuvre de l'accord. Nous, au niveau de la SEMA, on ne parle pas d'une mise en œuvre sélective de l'accord. On parle d'une mise en œuvre globale de l'accord. Vous savez que dans cet accord, il y a des dispositions politiques institutionnelles, il y a des dispositions relatives à la défense et à la sécurité, des dispositions relatives au développement économique, social et culturel, et les dispositions relatives à l'humanitaire. Donc, au niveau de la SEMA, nous sommes prêts à aller à une mise en œuvre globale, efficiente et diligente de l'accord, sur tous ces points, y compris le plan de défense et sécurité dans lequel est inscrit ce programme national de guerre.
La plateforme, depuis sa création, est un allié du gouvernement malien. Ghana Ould Mohamed, plateforme.
La plateforme est présente sur tous les terrains, partout, et surtout quand il s'agit de la paix, quand il s'agit de la stabilisation et quand il s'agit de la cohésion sociale, la plateforme est toujours prête pour vraiment jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de l'accord de paix.
Depuis la signature de l'accord d'Alger, sa mise en œuvre incombe aux 3 parties. Malgré les efforts de part et d'autre, des difficultés ont émaillé tout le processus. Colonel Major Baba Ahmed, Commission nationale DDR.
Il y a des difficultés chaque fois. Il y a un des partis qui se retire, il y a un des partis qui boycotte, des difficultés. Sinon, le gouvernement, depuis le début, nous, on était prêts. On a ouvert les bureaux dans toutes les régions. Les chefs de bureau sont désignés. On est prêts pour recevoir ces combattants et appliquer ce qui est dans l'accord d'Alger.
Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
La suite de la tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président turc s'est arrêté quelques heures à Nouakchott avant de se rendre à Dakar. Claire Mourin-Jibou.
C'est la première visite d'un chef d'État turc en Mauritanie. Recep Tayyip Erdogan est arrivé hier après-midi à Nouakchott pour une visite de quelques heures. Accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires, M. Erdogan a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Abdelaziz. Le président turc a signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, mais aussi dans les hydrocarbures et les mines. Le chef de l'État turc a quitté la Mauritanie en début de soirée pour se rendre au Sénégal, avant-dernière étape d'une tournée africaine qui s'achèvera vendredi au Mali. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain. Il s'efforce également de combattre l'influence du prédicateur turc Fethullah Gulen, qui a ouvert plusieurs écoles sur le continent. Ankara l'accuse d'avoir fomenté le putsch manqué en 2016.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Dans la capitale américaine, il est 6h06. Les États-Unis ont appelé mercredi la communauté internationale au cours d'une conférence à Washington à renforcer l'arsenal civil contre les djihadistes du groupe État islamique pour prolonger les succès militaires en Irak et en Syrie. L'administration américaine a mis en avant trois outils pour poursuivre le combat. D'abord, les sanctions financières. Ensuite, Washington préconise la généralisation du Passenger Name Record, un registre de données des passagers aériens. Enfin, l'administration américaine appelle ses alliés à renforcer l'usage de la biométrie pour améliorer le contrôle aux frontières. Toujours aux États-Unis, le président Donald Trump a lancé hier une nouvelle attaque contre Jeff Sessions, le ministre de la Justice, jugeant honteux son choix de faire enquêter sur d'éventuels abus dans les écoutes téléphoniques. Yacouba Ouedraogo.
Le président Donald Trump s'est demandé pourquoi Jeff Sessions, ministre de la Justice, a instruit l'inspecteur général d'enquêter sur les possibles abus de la FISA, la cour qui détaille les conditions dans lesquelles une personne peut être placée sur écoute. L'inspecteur général n'a-t-il pas été nommé par Obama? Pourquoi ne pas avoir recours aux juristes du ministère de la Justice? Honteux, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Ancien sénateur de l'Alabama, le conservateur Jeff Sessions, soutien de Donald Trump durant sa campagne, est souvent la cible des piques du président américain. Il reproche à son ministre de la Justice de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, une affaire qui empoisonne sa présidence. De son côté, M. Sessions a affirmé qu'il va continuer à accomplir son devoir, je cite, « avec honneur et intégrité ». Ce ministère va continuer à faire son travail de façon juste et impartiale, dans le respect de la loi et de la Constitution, a conclu Jeff Sessions.
La cascade des départs à la Maison-Blanche se poursuit. Hope Hicks, proche conseillère de Donald Trump, a annoncé mercredi sa démission. La jeune femme de 29 ans, qui avait rejoint très tôt et sans la moindre expérience politique la campagne du magnat de l'immobilier, occupait depuis septembre le poste de directrice de la communication. Cette démission intervient au lendemain de l'audition de la jeune femme à huis clos au Congrès dans le cadre de l'affaire russe qui donc empoisonne la présidence de Donald Trump. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, s'est dit aujourd'hui absolument sûr que le projet de traité organisant le Brexit, présenté mercredi par la Commission européenne, serait accepté par les 27 États membres qui resteront dans l'Union européenne après le départ du Royaume-Uni. Ce texte contient des dispositions ayant déjà fait l'objet de compromis entre Londres et Bruxelles, mais faute d'accord entre les deux parties, d'autres ne reflètent pour l'heure qu'une position de l'Union européenne seulement. Le président russe Vladimir Poutine a promis aujourd'hui d'améliorer le niveau de vie des Russes et diviser par deux le niveau de pauvreté inacceptable lors du mandat de 6 ans qu'il devrait remporter le 18 mars. À un peu plus de 2 semaines du scrutin, Vladimir Poutine a débuté son adresse annuelle devant le Parlement en insistant sur la nécessité d'améliorer le bien-être de la population et d'investir dans les infrastructures et la santé pour éviter à la Russie de prendre du retard, ce qui constitue selon lui son principal ennemi. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.